Bonsoir Pierre Greib, tu es membre de la CIMAD et tu as participé à une délégation assez nombreuse de Strasbourgeois qui s'est rendue au procès de Pinard Sélec et on t'a vu hier donc lors de sa conférence de presse. Donc est-ce que tu peux dire un peu pour la feuille de chou tes impressions puisque je crois que tu as été au tribunal où l'affaire s'est passée.
Oui, alors on a été la veille au soir, on a été avec d'autres délégations étrangères au local d'Amarguil, qui est l'association féministe que Pinard avait fondée, ou en tout cas cofondée, où on a eu un certain nombre de consignes avec un groupe très actif de gens qui la soutiennent à Istanbul. On a appris aussi que des étudiants en sociologie la soutenaient sur des slogans du type « Nous sommes tous Pinard Sélec », »,« Nous sommes tous des Pinard Sélec ». C'est important de le dire qu'il y a un mouvement autour d'elle, un mouvement international, donc des gens d'Allemagne, de France. Il y avait aussi des Italiens, il y avait aussi une assez grosse délégation française donc et de l'Université de Strasbourg. Donc nous, le collectif de soutien, on était 13, et puis il y avait 4 personnes de l'université, un vice-président, un professeur et 2 étudiants. On a senti quand même qu'il y avait déjà la veille au soir une inquiétude. On était parti relativement confiant en se disant on assistera à son acquittement une fois de plus et ce sera la fin.
Une attitude de votre côté ?
Non, une attitude de la part des gens qui nous recevaient.
Ah, oui.
Du comité d'Istanbul, on avait senti une certaine inquiétude. Enfin, ils n'étaient pas du tout sûrs de ce qui allait se passer. Et ce qui était peut-être le plus important, alors le lendemain, on a pu entrer. On est entré au tribunal après avoir fait une petite manifestation à l'extérieur du tribunal.
Les étudiants n'ont pas pu rentrer du comité.
Les étudiants turcs.
Mais j'avais compris que.
Non, les étudiants français.
Ah oui, c'est les étudiants turcs.
Oui. Non, les Français, on est tous rentrés à l'intérieur du tribunal, qui est un énorme bâtiment. C'est le plus grand tribunal d'Europe, qui est sous le signe un peu de la transparence, mais en fait ça nous a à quelques-uns fait penser au panoptique de Bentham dans Surveiller et punir de Foucault. Oui. C'est-à-dire que c'est la transparence, ça veut dire qu'on peut être vu de partout.
Oui.
Et surveillé de partout. Il y a eu une négociation du comité et des avocats pour demander une grande salle qui a été obtenue. On a considéré que c'était peut-être positif parce que l'audience précédente était dans une salle où il y avait 20 places. Alors que là, l'audience s'est déroulée dans une grande salle, il y avait entre 60 et 80 avocats qui ont pratiquement passé toute la journée dans la salle d'audience. Alors ils n'ont pas tous pris la parole, mais ils étaient là.
Ils étaient
aux côtés du père de Pinard Sélec, qui est un avocat de 83 ans et un homme d'une grande dignité, une grande dignité. Sa sœur est avocate aussi, elle était là aussi. Et alors il y avait des avocats, je dirais, de la génération du père, de la génération de la fille, et de très jeunes avocats aussi, très engagés, très. Enfin, on sentait cette tension de ces avocats qui étaient là en solidarité avec. Mais surtout en solidarité, mais aussi comme défenseur du droit. Il y avait là un enjeu, il y avait un enjeu sur le droit, au-delà d'elle. Je crois que c'est. Enfin, j'hésite à dire elle est un symbole parce que c'est d'abord une femme. Voilà. Mais elle représente quand même, elle représente sa condamnation. Représente une régression totale et toute la procédure que je ne vais pas exposer dans le détail parce que je ne la maîtrise pas complètement, représente un recul par rapport à l'état de droit.
Oui.
Elle avait été acquittée 3 fois et chaque fois la Cour de cassation avait fait, sur des questions de forme, un renvoi devant une cour pénale. Et cette fois-ci, l'audience qui avait eu lieu fin novembre, ou début décembre, avait été reporté au 24 janvier, Et là, on pensait que ça pourrait être un acquittement.
Mais ce que j'ai lu dans la presse, c'est qu'il y a eu, en fait, un des juges qui était malade.
Et alors, il y a un juges, qui l'a remplacé. Alors, un des juges était malade ouais. la dernière fois, et c'était le président.
Ouais.
Le président qui l'avait acquitté trois fois.
Voilà.
Il était malade. Cette fois-ci, il était présent, il était président, mais il était avec deux autres juges. Et alors, l'attitude des juges, je dirais, face à ces avocats qui étaient dans une grande dignité, ils étaient derrière leur écran d'ordinateur où ils susurraient des choses, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Alors nous, bon, j'ai parlé des avocats, mais il y avait la partie publique où on était peut-être 100 ou 150.
Des journalistes, je
suppose. Des journalistes, des membres des délégations. Notre délégation, on a pu suivre l'ensemble de la séance. Bon, on n'a pas tout compris évidemment, mais il y avait des amis du comité de soutien qui nous traduisaient, qui nous expliquaient en gros ce qui se passait. On avait un peu de mal à suivre quand même parce qu'il y a eu un petit peu des rebondissements. Il y a eu une grande plaidoirie d'un avocat assez âgé en fin de matinée qui a repris l'ensemble. Les avocats n'ont voulu parler que... ont plaidé sur, non pas sur le fond, mais sur l'illégalité des procédures, en disant qu'ils ne plaideraient sur le fond que si le tribunal reconnaissait qu'il y avait eu des défauts dans la procédure et de l'illégalité. Et puis, à la pause de midi, on sentait que c'était déjà compliqué. Et puis il y a eu reprise, quelques échanges, reprise en début d'après-midi, quelques échanges, une petite pause, de nouveau une reprise, et après il y a eu très rapidement, le tribunal a décidé une heure de pause pour la délibération. Et là, nous, on est partis parce qu'on avait l'avion qui devait partir, mais on nous avait dit aussi qu'il limiterait le nombre d'entrées au moment de du prononcé du jugement. Bon, d'après ce qu'on a su, il y a quand même des gens de la délégation qui ont pu y rester. Alors, il y avait par exemple Francis Kern, donc le vice-président de l'UDS, qui a assisté, puisqu'il a commenté aussi, le prononcé de la... On a rencontré Günther Wallraff, alors on avait vu qu'il
était...
Non, il était au procès. Oui. Il avait été à un procès antérieur, à un acquittement antérieur, donc il suit l'affaire depuis longtemps. Et on lui avait pas spécialement parlé puisqu'il y avait une délégation allemande, mais il se trouve qu'à l'embarquement à l'aéroport, il a pris le même avion que nous.
À l'aller ?
Au retour. Et donc on a pris contact avec lui, on lui a dit qu'on faisait une conférence de presse le lendemain matin, et à ce moment-là il a décidé de venir avec nous, et comme on était en covoiturage et qu'on avait de la place dans une voiture, il est rentré avec nous.
Et c'était très bien qu'il soit là.
Et c'était très bien qu'il soit là, puisqu'il a dit des choses fortes, et symboliquement c'était fort aussi qu'il soit là.
Vu ce qu'il a fait, comme enquêteur masqué, il est fondamental.
Voilà. Donc une ambiance qui était impressionnante, qui était pesante parfois. Et alors on avait surtout l'impression que, qu'y compris les avocats, ne comprenaient pas très bien, comment ça allait se jouer,
En fait, ce sera de savoir, mais ça c'est les avocats qui le diront, ce quatrième procès, donc, il est conforme même au droit turc, sans parler des droits européens.
C'est pour ça qu'il y a un recours devant la Cour de cassation, qui sera forcément en Turquie.
Tu connais le délai ?
Non, Binard nous disait, ça peut durer 8 jours, ça peut durer un mois, ça peut durer un an. On ne sait pas. On ne sait pas quand la Cour de cassation prendra sa décision. Là aussi, c'est un harcèlement, c'est très dur psychologiquement.
Oui.
Mais c'est la première fois qu'elle est effectivement formellement condamnée. Oui, parce que jusqu'à présent, sur le fond, elle avait été acquittée trois fois.
Oui, ça paraît absolument aberrant. Et alors, j'aime beaucoup cette façon qu'elle a de parler de ses forces, disons, souterraines au système turc. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression qu'il y a une espèce de démocratie parlementaire. Elle parle d'état profond, c'est ça ?
État profond. Oui.
Donc je pense qu'elle fait allusion
en fait à des forces policières, militaires, peut-être liées à cette laïcité extrême qui existe en Turquie et qui a l'air de surveiller les pouvoirs, les gouvernements élus, les majorités élues.
Alors
et
oui,
parce que il y a des années,
ce que Günther Wallraff appelle la démocrature.
Démocrature. Oui,
démocrature.
Et une contraction entre démocratie et dictature.
Et dictature. Voilà.
Oui. Et je crois que ça marche bien avec ce qu'on peut savoir de la Turquie.
Enfin, ce qu'on peut percevoir là, c'est qu'il y a une. C'est qu'il y a, bon, Pinard est quelqu'un qui, dans ses travaux, a étudié les marginaux, tout ce qui est à étudier avec une certaine empathie. Elle s'est engagée aussi, je veux dire, sa bibliothèque féministe, sa librairie féministe et tout ça. C'était un engagement, elle était militante aussi. Hein,
des Roms,
des prostituées, des transsexuels. Voilà. Donc tous ceux qui sont marginaux, des militaires, mais des jeunes du contingent, des Kurdes, donc tout ce qui gêne. Et je crois que c'est symboliquement, c'est elle gêne, et elle gêne aussi bien, je dirais, cet état, enfin, disons, le côté militaire, là, est-ce qu'on peut parler de caste militaire ou oui, peut-être, enfin, de, disons, l'intérêt de l'armée qui défendait la laïcité kémaliste, mais qui défend aussi l'ordre, qui défend l'ordre, et aussi, disons, le parti religieux, le parti religieux qui est aussi l'ordre, et qui sont, je dirais, relativement alliés par rapport à ça, qui ont des intérêts concordants par rapport à elle. C'est compliqué.
Voilà,
c'est compliqué, mais en tout cas...
Même comme, comment dire, un islamisme modéré.
Un islamisme modéré, mais qui est quand même pour un ordre social et un ordre moral.
Mais par ailleurs, quand même, on peut remarquer, bon, c'est d'ailleurs hier une remarque que je me suis fait, c'est que la Turquie actuellement, comme elle a la Syrie, où il se passe des horreurs qu'on sait, en fait, c'est une espèce de bastion de l'Occident, et l'OTAN installe actuellement des missiles.
Mais ça a toujours été un bastion de l'OTAN.
Oui, mais là,
pendant la guerre froide, c'était déjà ça.
Mais là, encore plus. C'est-à-dire, par rapport à ce qui se passe en Syrie, il y a l'installation de missiles de dernière génération à la frontière, c'est dans le pays kurde, évidemment, plus à l'est de la Syrie. Et donc, moi, je trouve que, comment dire, il y a aussi cette contradiction, je trouve, tu me dis ce que tu penses, entre l'aspiration manifeste de la Turquie à rentrer dans l'Union Européenne et ce qui vient de se passer, par exemple.
Tout à fait.
Hein, c'est absolument contradictoire.
C'est tout à fait contradictoire. Ouais. C'est tout à fait contradictoire. Ouais. Maintenant, il faut voir quels sont les intérêts de entre guillemets, l'Occident par rapport à ce qui se passe comme plateforme militaire.
On voit bien
ça l'a toujours été. Donc, c'est... Mais c'est complexe. Et elle est un symbole, mais il y a aussi l'incendie de l'université de Galatasaray, où les pompiers ont mis beaucoup de temps à intervenir, d'après ce qu'on nous a dit. Des avocats et des étudiants qui sont emprisonnés, et des avocats...
Elle a parlé de 800.
Oui, 800 étudiants. Voilà, 800 étudiants. Il y a des journalistes en prison. Il y a des avocats qui ont été arrêtés la semaine dernière. Disons qu'il y a certainement une espèce de reprise en main, une crispation du pouvoir dont elle est aussi... Alors, elle a subi la torture en 98.
Ouais. Bon, notre conclusion,
On reste solidaire avec Pinard, évidemment, et on continue à suivre les choses, quoi. Parce que c'est vrai que quand Pinard dit qu'elle veut rentrer parce qu'elle aime Istanbul, et quand on visite Istanbul, on comprend. Enfin, Istanbul est une ville qui a vocation à être une ville d'Europe, complètement.
Et une ville multiculturelle,
cosmopolite, complètement. Un vrai carrefour. Il y a là des gens qui viennent d'Iran, d'Arabie Saoudite, de l'Europe de l'Est, du Turkestan, de l'Asie centrale. On a vu hier soir à l'aéroport des femmes avec des turbans qui étaient sur un vol pour le Turc, enfin pour l'une des républiques d'Asie centrale.
Non,
oui, enfin, je sais pas quelle était une destination, avec plein de bagages apparemment, c'était des femmes qui faisaient du commerce, qui étaient venues s'approvisionner au bazar d'Istanbul et qui allaient faire du commerce. Donc il y a quelque chose, c'est un Orient proche parce que la ville est proche et très, et peut être très européenne. Et puis elle est aussi sur un autre espace et c'est tout à fait intéressant.
Bien, merci.
Voilà.